Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
18h38 sur Europe 1, merci d'être avec nous et merci pour votre fidélité. Ça fait débat aujourd'hui. Canicule, sécheresse, est-ce qu'on aura bientôt plus rien à manger? La France est entrée dans son troisième épisode caniculaire depuis le début de l'été. Et ça va continuer. D'après Météo France, la semaine prochaine sera très chaude. Alors nos récoltes, elles vont être mises à mal. Et est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Pour en débattre, Cyrielle Châtelain, coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Edwige Diaz, députée du Rassemblement national. Othmane Nasrou, vice-président Les Républicains de la région Île-de-France. Robin Reda, député Renaissance de l'Essonne. Et au téléphone, nous avons Laurent Grandin, président d'Interfel. Merci à tous d'être avec nous. Monsieur Grandin, on va commencer avec vous. Ces épisodes de canicule à répétition, ça a quel impact sur les récoltes?
Alors, ça a un impact différent suivant les productions que l'on peut avoir, puisque on a des zones de maraîchère. Je rappelle que maraîchage vient de marais, donc par définition, quand il y a un manque d'eau, ça a un impact forcément sur ces productions. D'une manière générale, disons qu'il y a des effets négatifs, des effets positifs pour nous. La vraie question qui se pose aujourd'hui, elle est véritablement dans quelle adaptation à ces changements et quel investissement nécessaire. Et c'est le sens du grand plan fruits et légumes que l'on a lancé avec le ministère de l'Agriculture pour en définitive définir les contours de l'agriculture du 21e siècle.
Cyrielle Châtelain, on entendait là, on parlait vraiment de grands plans pour pouvoir s'en sortir, penser le futur. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Parce que là, on a l'impression qu'on est spectateur et qu'on ne peut pas faire grand-chose. Très effrayant.
Oui, c'est effrayant, d'autant plus qu'on sait en fait depuis longtemps que ça va arriver. On sait que les températures vont augmenter, c'est ce qu'on est en train de vivre. On a déjà plus 1 degré en fait en termes de réchauffement et on sait que ça va causer des sécheresses, des canicules, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement d'accompagner nos agriculteurs à adapter leur mode de production, notamment pour que ça consomme moins d'eau. Mmh. Et c'est aussi les aider à mieux vivre. On est dans un système où 23% des agriculteurs aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont le surendettement et maintenant ils ont des cultures qui peuvent être détruites, soit parce qu'on manque d'eau, soit par le gel tardif, soit par la grêle. Donc la question, c'est vraiment comment on repense ce modèle pour que on puisse mieux manger et que les agriculteurs puissent en vivre.
Alors justement, à ce sujet, sur Europe 1, nous avons eu un agriculteur qui était avec nous. Il s'appelle Mathias Beaune, éleveur maraîcher dans les Flandres. Et pour lui, ça n'est pas facile tous les jours.
Quand on regarde les pâtures, on voit qu'il n'y a plus du tout de repousse d'herbe. On va devoir rentrer les bêtes plus tôt et on va commencer à taper dans les stocks, je pense, de l'hiver. Quoi. Pour l'alimentation des animaux, parce que si on les rentre automatiquement, il faut leur donner à manger. D'habitude, ils mangent dans les pâtures, mais on voit que les pâtures, il n'y a plus de repousse, il n'y a plus rien. On a l'impression qu'il ne sait plus pleuvoir. Quoi.
Edwige Diaz, on a encore les clés pour arrêter le massacre. Faut mieux légiférer, faut agir maintenant.
C'est sûr qu'il faut agir rapidement. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mon soutien aux agriculteurs et notamment à ceux de mon département qui, dans la même année, ont subi un épisode de gel, un épisode de grêle et maintenant la sécheresse.
Pas de répit, quoi.
Non, pas de répit. Et c'est vrai que, bien sûr, ça a posé beaucoup de questions sur notre souveraineté, notre indépendance alimentaire. Donc, je pense qu'il n'y a pas de baguette magique. On a tous envie autour de la table qu'il pleuve plus, mais là, aucun politique n'a de pouvoir en la matière. Par contre, on peut quand même prendre des mesures pour faire plus attention à l'eau. Il faut vraiment se poser la question de des retenues d'eau, par exemple. Moi, je pense donc dans ma région, il y a la question des bassines dans les Deux-Sèvres. Les agriculteurs demandent à ce qu'on puisse faire ces retenues d'eau, c'est-à-dire quand il y a trop d'eau, on conserve cette eau pour pouvoir mieux l'utiliser pour les irrigations quand il fait trop chaud. Il faut aussi, à mon avis, qu'on investisse dans la recherche pour mettre en place des cultures plus résistantes à la sécheresse. Et puis, il faut aussi, bien sûr, faire attention au gaspillage d'eau. Et là, je vois deux éléments. Le premier qui concerne les canalisations. Moi, je suis élue dans une petite commune rurale qui s'appelle Saint-Savin. Et la plupart de nos canalisations d'eau sont très anciennes, ce qui implique des fuites. Et donc, forcément, on a un gaspillage d'eau. Et puis après, il y a les gaspillages d'eau intentionnels qu'il faut, à mon avis, punir plus sévèrement. Et là, je pense à ce qui s'appelle le street pooling. Donc le street pooling, c'est en fait, ce sont des individus, des délinquants qui décident de casser des bouches à incendie pour se baigner parce qu'ils considèrent qu'il fait trop chaud. Sauf que non, mais c'est très important parce qu'en Île-de-France l'année dernière, c'est 166 000 mètres cubes qui ont été ainsi gaspillés.
Othmane Nasrou, le problème, c'est les délinquants?
Il faut lutter contre toutes les formes de gaspillage, mais expliquer qu'on va régler le problème de la sécheresse aujourd'hui en luttant contre le street pooling, je pense que j'ai passé à côté du problème, mais c'était probablement une bonne occasion d'en parler et Diaz l'a saisi, mais je crois qu'on est à côté du sujet. La réalité, c'est que moi, je suis toujours très surpris du manque d'anticipation sur ce type de sujet. Je pense que globalement, on a un manque d'anticipation sur tout ce qui concerne la gestion des crises, qu'on a des sujets de prévention des risques qui sont maltraités dans notre pays, qui ne sont étudiés qu'au moment où les crises arrivent. Nous devrions, pourtant il existe des dispositions, mais qui sont toujours activées un peu tardivement et qui sont méconnues d'ailleurs du grand public, alors qu'on pourrait s'interroger sur ce sujet-là s'il n'y a pas un travail de sensibilisation à faire en amont sur qu'est-ce qu'on fait quand la crise arrive et pas simplement une fois qu'on est au pied du mur.
Mm-hmm. Et puis, comment on fait alors pour anticiper?
Justement, je suis toujours surpris parce que j'entends tout le monde ici expliquer qu'il faut aider nos agriculteurs et nos éleveurs parce que ce sont eux, dans l'immédiat, qui vont être les plus frappés par cette sécheresse. Et ils n'avaient effectivement pas besoin de ça. Mais les mêmes qui vous expliquent qu'il faut les aider à faire cette transition sont aussi ceux qui les accablent de charges, de normes excessives et qui font qu'aujourd'hui, ils ont plus de mal aussi à affronter cette difficulté supplémentaire. Il faut donc être cohérent et on ne règle pas un problème avec ceux qui les créent. Si on veut aider nos agriculteurs et nos éleveurs, il faut les aider du début à la fin et pas les culpabiliser quand ça nous arrange pour expliquer qu'il faut les aider ensuite.
Robin Reda, on a d'un côté le portefeuille des Français qui va très mal. Loi pouvoir d'achat d'urgence à l'Assemblée nationale, au Sénat. Ça vient d'être accepté en commission mixte paritaire. Et puis de l'autre côté, on a avec ces lois, la réouverture d'une centrale à charbon, un terminal méthanier pour importer du gaz de schiste. Bon, est-ce que c'est aussi comme ça qu'on va régler le problème ?
Alors d'abord, pour la question des sécheresses, c'est vrai qu'on en connaît déjà depuis quelques années. Ces phénomènes sont anticipés dans la mesure où nous avons des comités d'anticipation à l'échelle nationale et à l'échelle locale, anticipation des risques hydrologiques, qui sont réunis d'ailleurs au printemps pour anticiper, comme chaque année, la sécheresse estivale qui était prévisible avec des moyens qui ont permis de renforcer notamment les agences de l'eau à l'échelle locale pour aider nos agriculteurs.
Il y a quand même 100 communes aujourd'hui en France pas d'eau potable.
Ce qui était moins prévu, c'est ces vagues de canicule à répétition sans qu'il y ait un moment de récupération pour les sols et pour les cultures.
C'est pas prévu, Cyril Chastain ?
Non, ça c'est un phénomène météorologique.
On pouvait
anticiper la canicule, mais on voit bien qu'on a eu
des
vagues de chaleur semaine après semaine et encore une prévue la semaine prochaine. Qui était plus difficile à anticiper par ces comités des risques. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Première ministre a déclenché la cellule interministérielle de crise. Et tout cela doit se gérer, bien sûr, au niveau national, mais en relation avec les acteurs locaux. Parce que ce que disait ma collègue sur les phénomènes ensuite d'utilisation de l'eau, de gaspillage d'eau, c'est plus à l'échelle locale, en fonction des réalités sociologiques et des réalités des territoires. Et donc cela, c'est le court terme. Ensuite, vous avez raison, il y a des questions de pouvoir d'achat pour l'alimentaire, pour l'énergie aussi, parce que la sécheresse ou le réchauffement, c'est aussi des fleuves plus chauds, c'est des centrales nucléaires à l'arrêt, alors même qu'on a des réacteurs nucléaires aujourd'hui qui sont à l'arrêt et qui sont les principaux porteurs de notre indépendance énergétique dans un contexte d'enchérissement. On a du mal aussi à transporter des produits énergétiques, c'est le cas notamment sur le Rhin. Donc tout cela va vers la continuité de l'enchérissement et de l'inflation des produits énergétiques. C'est pour cela qu'il y a la poursuite qui a été largement approuvée hier à l'Assemblée nationale grâce à un compromis politique assez large, la poursuite du bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité et une poursuite de la protection des Français face à l'inflation des produits énergétiques. On voit que tout ça est lié et donc il faut s'y attaquer évidemment sur le long terme.
Et on continue d'en débattre dans un instant sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Jeanne Baron.
Presque 18h50 sur Europe 1. Merci pour votre fidélité. On en parle aujourd'hui, ça fait débat. Ces épisodes caniculaires et de sécheresse à répétition, est-ce qu'on aura bientôt plus rien à manger ? Avec mes invités, Cyrielle Chatelain, coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Edwige Diaz, députée Rassemblement national, Othmane Nasrou, vice-président Les Républicains de la région Île-de-France, Robin Reda, député Renaissance de l'Essonne, et vous, Laurent Grandin, président d'Interfel. Laurent, on se parle aussi des solutions. Il existe des solutions pérennes ?
Alors absolument, nous investissons déjà massivement depuis des années sur nos deniers, puisque l'interprofession représente une entité reconnue par l'Europe qui est privée, d'abord sur la question de l'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau, dans le domaine des pesticides, parce qu'on est confronté à des injonctions quelquefois complémentaires et contradictoires. Donc on travaille sur la création variétale, sur puisque la connaissance génomique aujourd'hui, je ne parle pas des OGM, mais la connaissance génomique permet d'aller plus vite en matière de recherche et d'adaptation. Et donc, oui, il y a des solutions aussi bien de protection des cultures, de robotisation, sur lesquelles on travaille avec le ministère, Et en définitive, la solution va forcément passer par un financement important de la recherche appliquée. Pour une raison d'évidence, c'est que la recherche fondamentale recherche plutôt des solutions à 10-15 ans et qu'on voit bien que même si en permanence, et on a plusieurs dizaines de millions d'investis chaque année sur la recherche, il faut encore accélérer et il faut absolument trouver des solutions et surtout avoir l'idée que ces solutions soient en capacité de les transférer aux producteurs. Mmh. C'est toute notre réflexion et tout notre programme.
Merci beaucoup Laurent Grandin d'avoir été notre président, notre invité. Je rappelle que vous êtes le président d'Interfel. Cyrielle Châtelain, les solutions, on l'a compris, elles existent. Encore faut-il mettre de l'argent sur la table? C'est toujours une question de moyens, ou est-ce que nous qui vous écoutons, moi qui suis à vos côtés, à notre échelle, on peut faire quelque chose?
Il y a plusieurs choses, en fait. Il y a aujourd'hui de l'argent. La question, c'est comment on l'utilise. Depuis longtemps, on dit qu'il faut réorienter les aides. Il faut réorienter les aides vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Il faut orienter les aides vers l'aide à l'installation, notamment pour les nouveaux agriculteurs. La deuxième chose, c'est que oui, il faut de la recherche, mais en fait, il faut aussi faire confiance aux agriculteurs qui connaissent leur territoire pour travailler sur, en fait, quelle est la culture qui va moins consommer d'eau. On est aujourd'hui dans cette obligation-là
de penser
quelle agriculture pour quel territoire. Et je pense qu'ils sont vraiment bien passés pour le savoir. Et juste la dernière chose, c'est pourquoi on cultive. Je pense qu'il faut arrêter les cultures qui consomment beaucoup d'eau pour nourrir soit des bêtes, soit pour faire des jeans. Aujourd'hui, 7000 litres d'eau, c'est un jean. Donc en vrai, il faut sans doute qu'on cultive d'abord pour manger.